48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à tous, nous voilà donc à ce 37e mag. Et oui, déjà 37 mag animés au sein de cette radio. C'est pas mal déjà, hein, non?
C'est pas mal.
Merci avec nos trois invités aujourd'hui. Donc, nos trois invités qui sont Vidal Romain de l'UDAF, que vous connaissez, qui est déjà venu nous parler plusieurs reprises.
Oui.
Voilà, notamment de la tutelle, curatelle, tout ça. Hein, je me souviens bien
tout
de cette émission. Voilà. Monsieur Jean-Michel Marquez de la CAPEB et qui est aussi président de
l'UPA.
De l'UPA. Voilà, il parlera un petit peu des nouvelles lois qui sont sorties, notamment sur
l'auto-entrepreneur.
L'auto-entrepreneur, merci. Et puis aussi ce qu'ils vont faire cette semaine de façon très importante.
Avec la semaine de la construction saine.
Voilà, donc ça c'était la jolie voix de Yaël.
Bonjour.
Qui va être animatrice avec nous aujourd'hui. Et puis ensuite, nous parlerons de la fête du sport avec Monsieur Sport, Jean-Claude Moulin de la ville de Mende, qui organise encore cette fête du sport pour la cinquième année. Sixième année ?
Cinquième.
Cinquième année, oui. C'est ça. Eh bien, nous allons commencer tout de suite donc, avec Monsieur Vidal Romain, avec un nouveau dispositif donc, qui est mis en place au sein de l'UDAF de la Lozère, le microcrédit personnel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce microcrédit ? Je pense que c'est aussi une mesure qui est assez importante et intéressante.
Oui, 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 en fait, on a monté ça donc avec le concours de la Banque Postale. Voilà, donc suite à divers entretiens et notamment le fait qu'on s'est rendu compte de l'augmentation de certains de nos sites surendettement et étant donné que la crise n'améliore pas trop la situation actuellement, on s'est positionné en tant qu'acteur social pour la mise en place de ce microcrédit sur tout le département de la Lozère. Voilà. Grâce au concours, bien sûr, de la Banque Postale.
Donc, en fait, c'est un microcrédit qui n'est pas destiné à des gens qui veulent entreprendre, mais plus à des particuliers.
En fait, voilà, le but, c'est surtout de la réinsertion sociale. Voilà, c'est toute personne qui est exclue de la possibilité de faire un emprunt. Le but va être de la recevoir, de monter un dossier avec elle pour voir si elle va avoir la capacité de rembourser ce crédit. Parce que le but, ce n'est pas d'aller rajouter un crédit par-dessus un crédit, puis un crédit.
Oui,
c'est juste le surendettement. Voilà.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'en voilà. Fait, c'est les gens qui ont pas la capacité afin d'avoir, ou à qui on refuse un prêt bancaire classique, sont des gens qui sont souvent soit défavorisés, soit dans des situations déjà
de grandes difficultés financières.
Grandes difficultés financières.
Donc c'est pour ça que déjà, c'est un tout petit montant, hein, c'est de 300 à 3000 euros. Et il y a un but derrière.
C'est plafonné, 3 000
euros. Oui, 3 000 euros. Donc le but, en fait, ça va être, la plupart du temps, une personne qui a un problème au niveau de sa mobilité. Voilà. En Lozère, on n'a pas de voiture. Pour trouver un travail, ce n'est pas forcément facile. Le but, il va être là.
Et à 3 000 euros, on trouve une voiture ?
Non.
Un scooter, peut-être.
Un scooter, oui. Ouais. Ou un ami qui nous aime. Non, mais vous avez souvent des gens qui passent, ils ont une... Ça arrive souvent 600-700 euros de réparation sur la voiture. Et justement, comme vous dites, d'accord. Après, qu'est-ce que je peux trouver à 700 euros ? On ne trouve pas une voiture. Voilà. Après, ça va être tout ce qui est accès à l'éducation, des stages, un équipement informatique, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, hein, sans équipement informatique, ce n'est pas évident. Les gens voient le...
Équipement et connexion.
Oui, connexion, oui. Donc, vous calculez 300 à 3000 euros sur 3 ans. Donc, entouré à un taux, hein, il faut en parler quand même, il y a un taux de 4% qui est fixe. Donc, le but, il est juste là de vous remettre le pied à l'étrier. Voilà.
D'accord.
Bon, le taux, hein, c'est la Banque Postale qui l'a d'accord. Fixé, c'est le taux du microcrédit, c'est les décisions au niveau national.
Oui, par contre, le microcrédit ne peut pas servir, par contre, au rachat de crédit...
ni de dette.
Ni de dette.
Oui,
et par contre, il faut qu'il serve un projet et vous faites un accompagnement.
En fait, ce qui se passe, voilà, oui, la personne passe dans les locaux de l'UDAF, on met en place une grille, c'est-à-dire qu'on va calculer si elle va avoir, oui ou non, la possibilité de rembourser, est-ce que le montant est justifié et est-ce qu'il y a un but derrière, voilà. On monte ce dossier part à Montpellier, directement auprès du siège de la Banque Postale, qui après va rendre un avis positif ou négatif. Le but étant que quand même, quand on a monté le dossier, c'est qu'on sait qu'il y a 90% de chances qu'il soit accordé par Montpellier. Et ensuite, elle va bénéficier d'un accompagnement de la part de l'UDAF et surtout dans un deuxième temps, de la part d'un banquier auprès de la Banque Postale. C'est-à-dire c'est un accompagnement de chaque mois. Voilà, ça peut arriver, même si on rembourse 50 euros, on dit voilà, ben, ce mois-ci, je ne peux pas. Donc, pour ajuster au mieux. Le but, c'est voilà, on ne peut pas racheter un crédit ou des dettes parce que là, en fait, c'est quoi? C'est mettre en place un dossier de surendettement quand on est à ce point-là. Voilà. Donc, le but, c'est justement de pallier à tous ces soucis. Donc, c'est pour ça que, voilà, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire 2000 dossiers dans l'année.
Hein, si on en fait. Ouais.
On n'a pas d'objectif. L'objectif principal, c'est au moins, mais si je peux aider 2 à 3 personnes, mais vraiment, réellement, je serai le plus heureux.
Par voilà. Contre, c'est des personnes, donc on disait, mais ce n'est pas des personnes qui sont accompagnées par vous. Ça peut être toute personne.
Ah oui, 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 oui. Parce que là, on n'est pas dans le cadre de la mission de tutelle. Hein. On est dans le cadre de l'institution. On se rapproche plus de ma mission de conseiller juridique. Hein, voilà. Donc là, c'est n'importe quelle personne du département peut contacter et nous rencontrer pour la mise en place de ce dossier.
Ça, c'est une initiative de l'UDAF.
Oui, ah oui, oui, oui.
De l'UNAF ou de l'UDAF?
De l'UDAF, et on a eu de la chance, c'est que au niveau de l'UNAF, c'est devenu une grande cause nationale aussi.
D'accord.
Voilà. Donc nous, c'est parti de l'année dernière.
C'est ça?
Partie de la Lozère, non, il y a eu plusieurs UDAF qui se sont rendus compte, étant donné qu'on avait les missions de procédure de rétablissement personnel, c'est-à-dire qu'on suivait les dossiers de surendettement, on se rend bien compte que des fois, c'est dommage de faire un dossier de surendettement qui, à la base, est parti pour 300 euros. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dette de 300 euros, personne ne vous prête. Vous faites quoi? Je vais dire des mots, gros mots, mais vous prenez Cofin au gaz, CTLM, compagnie, avec des taux à 19%, et vous remboursez un crédit, du crédit, du crédit, du crédit. Et on voit
vous
des
êtes
dossiers.
Dans une spirale et vous n'en sortez jamais. Quoi. C'est un peu le
ça,
problème.
Ça, c'est la base. Toutes les personnes qui viennent me voir, attention au crédit à la consommation. Ça n'a jamais résolu. D'accord. Ça a jamais résolu un souci.
Aucun, ouais.
Et 95% des dossiers que j'ai vus, il y avait 2 à 3 crédits à la consommation.
Justement, les personnes qui viennent vous voir, qui veulent bénéficier de ce crédit, de ce microcrédit, il faut qu'elles viennent avec des documents. Comment ça se passe? Parce que...
Non, on ne va pas mettre la pression dès le début. Le mieux, c'est un premier contact, soit si elle a la possibilité de passer, elle passe effectivement à amende. On voit déjà dans un premier temps, après on montrera le dossier ensemble et je l'avertirai des pièces. Et si elle n'a pas de possibilité, elle peut me contacter par téléphone, je lui expliquerai les points. Voilà, il n'y a pas de souci, parce que ce n'est pas évident de faire venir forcément la personne avec ses fiches de paye. S'il y a plusieurs documents, effectivement.
En fait, vous offrez une garantie auprès de la banque ou ça marche comment? Parce que,
Après, la Banque Postale prend le bébé et gère tout de A à Z.
C'est-à-dire vous avez pas caution du tout de...
Non. Et c'était justement le but, parce qu'il y a des soucis. Nous, il nous fallait vraiment un établissement bancaire. Je veux dire, la Banque Postale, ils sont vraiment placés, grande cause nationale, dessus. Je veux dire, c'est un peu le fruit du hasard. Ouais. On s'est rencontrés dans une réunion. Voilà. On s'est dit, tous les deux, on va aller dans le même sens. C'est la chance de la Lozère, on ne va pas se mentir. Comme on est un petit département, on a la chance de vite croiser parfois des futurs partenaires.
Parce que 4%, ce n'est pas quand même très bas comme taux.
Non,
non,
ce n'est pas bas, mais c'est le taux national. Et puis, c'est le taux qui est édité par la Banque Postale. Oui, je sais. Oui, on préférerait tous avoir des taux à 0%, mais...
Enfin, sans parler de 0%, mais d'être à 1,5, ça peut être pas mal, ou 2%. Parce que 4%, c'est quand même, c'est plus cher qu'un prix immobilier qu'on négocie même directement aujourd'hui auprès d'une banque.
Certaines voitures, certains crédits voitures. Moi, pour ma voiture, j'ai un taux à 0%.
Moi, j'ai 1,01.
Non, mais bon, y a des... C'est vrai que... Il y a un taux de 4%. Bon, après, moi, à mon niveau, là, je ne vais pas pouvoir faire un choix.
Oui, je comprends.
Non, mais je sais, parce que quand j'en parle...
Piège, mais bon, les gens regardent aussi ça, quoi.
Parce que
ça veut dire que sur 36 mois, j'emprunte 3000 euros. Ça me fait quoi? Ça me fait 100 et quelques euros par mois, c'est ça?
À peu près.
Pour aller pas plus haut, quoi.
À peu près, 80 euros, même, on va dire.
Ouais.
Oui. Mais bon, 3000 euros, il faut le justifier. Vraiment, c'est vraiment des petits crédits.
D'accord.
C'est vraiment entre
300
parfois,
et 500 euros,
ouais.
600 euros. Oui,
oui, oui. Le frigo. Ouais. Bon, vous imaginez, des fois, vous avez des personnes, ils ont le frigo qui décède et ils n'ont aucune capacité de... Vous imaginez vivre sans frigo au jour d'aujourd'hui? C'est pas évident.
Ouais, j'ai essayé, c'est pas possible.
Hein, c'est pas évident.
J'ai mon frigo, comme tu dis, qui a décédé. Et il a rendu l'âme. Et en fait, c'est vrai
le temps qu'on a en ce moment.
C'est très, très pénible de ne pas avoir de frigo.
Mais on se rend compte de. Voilà, il y a eu une évolution avec la crise.
C'était.
Oui, c'était puissant. Hein. Magnifique.
C'est quelle réflexion. Non, ouais. Mais.
Attends, ça, faut le passer.
C'est quand même toi qui a même le suivi. C'est quand même toi qui a même le suivi, quoi. Je veux dire, Romain, faut assumer. Oh.
Mais j'assume
mon
tout.
Frigo
j'assume
qui
tout.
Décède, mais c'est quoi
et
cette
oui,
histoire
mais, je trouve frigo, ça beau.
Notre frigo, objet inanimé, avez-vous donc une âme, c'est ça?
Ah, mais moi, oui. Moi après, je. J'aime lier contact avec les choses qui m'entourent.
C'est bien. Bon, en tout cas, c'est une super opportunité quand même pour les gens qui en ont besoin. Parce
oui,
que c'est vrai qu'il
oui.
y a plein de gens qui sont très, très endettés dans des situations
il
très,
faut
très
surtout,
difficiles.
Je me permets de dire, voilà, n'hésitez pas. Hein. C'est souvent des gens qui ont besoin, qui n'osent pas justement demander. Donc, il faut vraiment, n'ayez pas peur. Des fois, on se dit, ah, peut-être que j'y ai pas droit et tout. C'est pas grave. Moi, je suis là pour ça. Mon but, c'est d'aider les gens. Je suis conseiller juridique et social. Ma mission est sociale. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler.
Il est déjà prépayé. Il n'y a pas de 4%
ouais,
à payer.
Il n'y a pas de 4%. Il y a pas de 4%.
Romain, il est gratos. Donc n'hésitez pas à aller le rencontrer à l'UDAF.
Tout est gratuit. Mais voilà. C'est vrai, service totalement gratuit.
Est-ce qu'il existe d'autres organismes comme vous? Enfin, peut-être que vous avez fait cette
non.
étude sur les microcrédits.
Sur le microcrédit en Lozère, il n'y a personne d'autre. Je pense qu'il n'y a personne d'autre. À un moment, je sais qu'il y avait quelque chose au niveau de Marvejols, mais c'était vraiment que sur le territoire de Marvejols. Moi, je parle au niveau départemental.
D'accord. Et personnel, parce qu'après, sur les entreprises, on peut.
Oui, je pense qu'il
y a existe du microcrédit
oui.
pour les entreprises.
Dans certaines entreprises, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Voilà.
D'accord. À quel numéro de téléphone on peut vous joindre?
04 66 65 10 85.
D'accord. Et il y a un site internet où ouais. vous avez expliqué tout
oui,
ça.
Oui, il y a tout sur le site internet www.udaf48.fr.
D'accord.
Et si les personnes veulent venir vous voir directement?
Rue de la Petite Roubérolle à Mende, en face des locaux de l'AMGEN.
Ah, sinon, 3615 Romain. Mais là, c'est pareil, quoi. C'est pas microcritique.
Non, non, mais bon, après, on garde toujours l'émission conseil juridique, aide aux tuteurs familiales. Et compagnie. Il est coquin. Il est coquin. J'en profite juste pour dire deux petits
oui,
mots.
Dire par
voilà,
rapport au programme.
C'est gentil. Oui, on a deux belles activités qui arrivent. Donc, lundi prochain, à la Maison Solidaire, le relais assistant maternel de la Lozère, à 9h30, fait un joli spectacle ouvert à un très jeune public des 9 mois, à savoir un spectacle de marionnettes sans parole. C'est vraiment à voir. C'est ouvert à tout le monde. À tout le département une nouvelle fois, donc venez nombreux, parents, enfants et surtout assistants maternels. Voilà, il y aura un petit déjeuner en entrée à 10h, ce spectacle qui est très agréable. Et en deuxième point, on a eu la chance de mettre en place une conférence le 26 juin qui sera au Monastier, Pin-Moriès, avec le pédiatre Aldo Naouri. Donc ce sera sur l'éducation précoce comme prévention des problèmes de l'adolescence et de l'âge adulte. Donc on a la chance d'avoir un monsieur comme Aldo Naouri qui a répondu avec entrain et plutôt content de venir en Lozère. Donc voilà, ben, n'hésitez pas par contre, c'est possible, à vous manifester parce qu'il y a déjà beaucoup de monde et malheureusement la salle n'est pas extensible. Donc pour la moindre inscription, vous n'hésitez pas à contacter ou même... aux mêmes informations que j'ai données.
D'accord, voilà. Donc à l'UDAF.
Oui, à l'UDAF.
Le 26 voilà. juin 2013.
À 14h.
D'accord. Alors là, en fait, c'est une éducation précoce comme prévention des problèmes de l'adolescence et de l'âge adulte.
Oui, c'est le thème de la conférence.
D'accord, mais ça veut dire quoi, éducation précoce?
Mais
ça
l'impact ouais. de l'éducation du très jeune enfant face au futur adolescent et adulte. C'est plutôt intéressant.
C'est-à-dire, en fait, vous allez dans, ouais. dans le même sens que la refondation de l'école avec la place de la maternelle un peu plus importante.
C'est pas moi, là. Hein. C'est un professeur. C'est Aldo Naouri, c'est pas moi.
Non, non,
c'est
mais
là,
quand
mon
ça,
rôle,
ça,
ça va
être... Quand je dis ça, ça veut dire qu'en fait, on est bien conscient aujourd'hui, que ce soit les pédiatres ou les enseignants, etc.,
oui,
que
fait.
Le rôle de l'école, enfin, le temps scolaire, le temps d'éducation, puisqu'on parle d'éducation, chez les très jeunes enfants, est aussi un moment important pour la sociabilisation. Est-ce que ça induit après chez l'adulte ou le jeune
ben là,
adolescent?
Là, selon Aldo Naouri, c'est plus qu'important. C'est un moment clé.
D'accord.
C'est un moment clé. Bon, après, bon, c'est souvent des courants. Et ce sera lieu de débat, je pense. Et surtout, Voilà, sur le territoire, je sais qu'il
y a d'autres associations après qui interviennent là sur le territoire. Je pense à Naître et Grandir, qui ont une autre philosophie sur.
Mais ça n'empêche pas de partager beaucoup de choses. Et ils sont à la Maison Solidaire et je les connais bien aussi, Naître et Grandir.
Oui, bah, tout à fait. Mm. Ils interviennent dans ce champ-là. Après, il y a d'autres structures. Et puis y a
les après, voilà, nous, c'est une action au niveau national. On a l'obligation de mener des actions de parentalité dans le cadre de l'UDAF. D'accord. Donc là, on a le concours de la DDCSPP. Enfin voilà, le conseil général et compagnie qui sont plutôt contents aussi également.
D'accord, non, voilà. De toute façon,
tout le monde est content, c'est formidable.
Ça contribue à la prise en responsabilité aussi des parents sur l'éducation de leurs enfants, quoi. C'est pas.
Oui, c'est le but.
Voilà, c'est très bien. Eh bien, on vous remercie.
Merci à vous.
Monsieur
merci.
Romain Vidal.
De rien, merci.
Une petite coupure musicale.
Son cadre en bois, un monde dont la loi suit les humeurs du temps. C'est une œuvre où la toile se dévoile et dessine un songe sans épine, une rose, une étoile. Le trait tantôt terni, tant le temps tantôt brume. Dans le brouillard qui fume, le pinceau reste au gris. Parfois le feu s'anime au fond des feuilles fendues par la lumière des nues. Que le pinceau affirme. Reflet d'une palette aux couleurs des saisons, elle porte sous le crayon le pays des poètes, rompant l'obscurité au cœur de la prison. Elle dépose sur le front un air de liberté. Ouvrez. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez. Les fenêtres de l'être. Tableau vivant dedans son cadre en bois, un monde dont la loi suit les humeurs du temps. C'est une œuvre où la toile se dévoile et dessine un songe sans épine, une rose, une étoile. Le trait tantôt terni, tant le temps tantôt brume. Dans le brouillard qui fume, le pinceau reste au gris. Parfois le feu s'anime au fond des feuilles fendues par la lumière des nues que le pinceau affirme. Reflet d'une palette aux couleurs des saisons, elle porte sous le crayon le pays des poètes. Rompant l'obscurité au cœur de la prison, elle dépose sur le front un air de liberté. Ouvrez. Ouvrez les fenêtres. Derrière son mur de verre, elle s'entrouvre et se brise en s'infiltrant la brise.
Bonjour, donc on reprend avec Jean-Michel Marquez, donc qui est président de la CAPEB et
De l'UPA.
De l'UPA, qui est la première entreprise de France.
Oui, l'UPA, en fait, en deux mots, c'est l'organisation qui rassemble trois syndicats qui sont la CAPE pour le bâtiment, la CNAMS pour les métiers de bouche et la CGAD pour les métiers de service. Tout simplement. Donc, sous l'appellation première entreprise de France, puisque nous représentons tous les artisans de France.
Et du...
Il y a combien d'artisans maintenant en France ?
Je ne vous dirai pas le chiffre du tout là. C'est une colle, c'est sympa.
Il préfère garder le secret.
Je peux vous donner les chiffres losériens. En Lozère, il y a grossièrement 2000 artisans inscrits à la Chambre des métiers, 700 entreprises du bâtiment.
Oui, oui, voilà. C'est énorme. Hein. Oui.
C'est, je pense, la première force économique du département, effectivement, la première entreprise.
Et cette semaine, du coup, dans le MAC, vous êtes venu nous parler de la semaine de la construction saine.
Oui, je suis venu vous présenter cette semaine. En fait, cette semaine, on est en train de créer une maison qui se situe au Cosdoge et on a voulu créer une semaine d'activité autour de cette maison-là.
Donc, qu'est-ce qu'on retrouve au programme ?
Au programme, on a retrouvé hier une ouverture aux particuliers pour leur projet. Hier, on avait une soirée avec la DIL, le CAUE et l'Agence locale de l'énergie sur les projets des particuliers qui voulaient venir avoir de l'information. Aujourd'hui, on a une journée tournée plutôt vers les métiers techniques. Donc, ce matin, on avait une démonstration de briques issues de notre région, puisque les briques arrivent de Castelnaudary. Toute la journée un chauffagiste qui vient présenter les chaudières à granulés. Et puis cet après-midi, on a une démonstration d'isolation en chaud-chambre.
Donc là, toutes les personnes qui sont intéressées peuvent vous retrouver à la Maison des Artisans cet après-midi.
Voilà, c'est ouvert à tout public. Quand c'est plus technique, c'est sûr qu'il vaut mieux. C'est plus ouvert à des artisans, mais toute la semaine est basée autant sur le grand public que sur les artisans du département. Demain, mettons, on a une journée avec un bureau d'études. Donc, toute personne qui veut faire une maison dans l'année ou quoi que ce soit va être obligée de passer par un bureau d'études sur les nouvelles réglementations thermiques.
Pourquoi ? Oui, il était venu vous présenter.
Ben, on revient sur notre dernière discussion sur 48 FM, sur l'ART 2012 qui a été mis en ordre de bataille depuis janvier. Même si pour le moment, elle connaît un démarrage qui est un peu compliqué, on va être obligé de passer sur certaines normalisations, dont l'étude thermique avant la construction de la maison. Donc demain, on ouvre, on a un cabinet thermique qui vient gratuitement et qui peut donner des conseils et des avancées sur des projets de personnes qui voudraient faire des maisons dans le département.
Donc là, de façon très pratique, si demain je veux venir, je viens où ? Au Cosdoge ou dans les locaux ?
Non, demain, c'est organisé à la Maison des Associations, donc c'est sur la place du Foirail, juste à côté de la bibliothèque. Donc il y a deux salles qui sont ouvertes et qui vous accueilleront.
Mais c'est sur rendez-vous, non ?
Non, pas du tout. C'est ouvert au public. Il y aura le bureau d'études toute la journée. Et ils vous recevront avec plaisir.
De quelle heure à quelle heure ?
9h-17h, je pense.
D'accord. Cette semaine dont on parle, là, c'est une semaine. L'objectif global de cette semaine, c'est quoi ? C'est de faire prendre conscience aux gens qu'avec des matériaux plus ou moins naturels, qu'avec une bonne réflexion, un bon ingénierie, on peut arriver à faire une maison pas forcément très chère, mais d'un très bon rapport qualité-prix ?
Oui, enfin, c'est aussi montrer aux artisans lausériens qu'ils ont des capacités, parce qu'ils n'en sont pas tous persuadés. C'est monter aux gens de la Lozère et tout ce qu'on a pu vivre dans les journaux récemment, qu'on a des vraies entreprises avec des capacités dans le département.
Et compétences, du coup.
Et énormément de compétences. Donc, si vous voulez, la semaine se clôture vendredi avec la visite de la Maison des Artisans au Cosdoge. La visite sera encadrée par M. Bourquin, le président de la région. Donc, il y a une vraie démarche aussi de la région derrière nous sur cette maison, parce qu'on espère la labelliser Sud de France, que ça soit la première. Cette maison, c'est 80% de produits régionaux, 100% d'artisans locaux.
Donc c'est de la consommation locale avec des coûts de transport moindres, c'est tout ça.
Ah ben bien sûr, on revient sur les fondamentaux de construction. La CAPEB, c'est un syndicat qui revendique l'artisan du pays sans que ça soit péjoratif et le savoir-faire. Et en Lozère, on a un vrai savoir-faire qui... Il y a des jours s'oublie vis-à-vis de constructeurs de maisons individuelles qui ne regardent pas obligatoirement ça et qui font venir des entreprises d'ailleurs. Nous, on a des entreprises locales qui ont des capacités, de la technique, et on voulait avoir une image de ça. Et l'image, ça sera cette maison, parce que cette maison, elle représente à peu près tout ce qui est l'artisan lausérien, avec la possibilité de se former, de s'adapter et d'amener des nouvelles technologies dans la maison.
Est-ce qu'il y a de l'autoconstruction prévue là-dedans ? C'est-à-dire, bon, là, je vois fabrication de briques, présentation du produit, mise en œuvre, conseil technique, béton de chanvre, démonstration d'application manuelle et par projection. Est-ce que ça, ce sont que des artisans ? Ou est-ce qu'il y a, dans votre concept aussi, de l'autofabrication, de l'autoconstruction ?
Non, il n'y a pas ça. L'auto chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'on sort de l'auto-entrepreneur et ça a été assez dur. Donc chez nous, pour le moment, c'est des petites entreprises parce qu'on est les premiers employeurs du département. Et si on ne valorise pas ça dans le département, ça ne va pas fonctionner. Nos emplois chez nous ne sont pas délocalisables et les matériaux utilisés sur la maison sont en majorité de la région. Hein. 80%, c'est quand même monstrueux. Les bois sont que des bois lausériens. Donc finalement, on a une forêt qui est aussi valorisable pour faire de la construction de la charpente que pour faire des plaquettes. Ce qui nous désole un peu, mais on a
de faire des plaquettes ou de faire de la charpente.
De faire des plaquettes, je crois que il faut prendre conscience que pour on a grossièrement 6 fois plus d'emplois créés avec un morceau de bois qu'on transforme et qu'on réalise une maison qu'un morceau de bois qu'on transforme en plaquette. Donc dans un pays aujourd'hui où on veut développer quelque chose, eh bien, autant développer nos ressources.
On peut faire les deux aussi, peut-être.
On peut faire les deux. C'est dommage qu'on ait pris, pour le moment, un seul chemin, c'est celui-là de la cogénération et du déchiquetage, alors qu'on a une vraie filière avec des emplois qui se créent. On a une scierie sur Saint-Chély qui investit plus €1 million dans les prochains mois. Et ils ne vont pas faire des plaquettes, ils vont faire du bois de construction. Donc on va valoriser ça au niveau régional. Et
Est-ce qu'on n'a pas un problème d'image ? Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi de communication de nos savoir-faire ? Parce que moi, j'entends beaucoup ça, mais par exemple, il y a quelques mois, j'ai proposé à des entreprises lausériennes d'aller sur la région PACA, sur des tarifs hébergés, nourris, logés, pour refaire des toits, parce que les artisans locaux, donc c'était à Grasse notamment, n'étaient pas en mesure de le réaliser dans les temps. Bon, on n'a trouvé personne, quoi. Personne et personne n'a voulu se déplacer et avec des matériaux qui auraient pu être emmenés de Lozère, etc., avec une vraie valeur ajoutée et on ne trouve pas ça. Alors c'est vrai que quand on est client ou quand on est constructeur, quand on a envie de construire sa maison, on se heurte quand même, enfin moi je vous pose le problème mais je l'ai vécu quand même de mon vivant, on se pose le problème de la durée de la construction. Hein, pour se retrouver après avec un loyer plus des prêts qui démarrent, et aussi sur l'enclenchement des corps de métier, et aussi sur la non-réponse ou la difficulté de caler sur un calendrier, sur des plannings, les intervenants, les artisans. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Enfin, oui, moi, j'ai construit ma maison parce que par absence de réponse, quand même. Donc finalement, j'ai tout fait, quoi. Mais est-ce que c'est pas une solution non plus, quoi.
Sauf le frigo. Mais bon, il est décédé en plus, donc ça a posé un problème. Non, mais
parce que
si
ça,
vous
c'est
voulez, effectivement, ouais. c'est une question qui doit être posée. Ouais. Là, je peux juste vous dire que moi, j'ai marché sur le cosdoge d'une maison avec des artisans avec un appel d'offres. Nous, on sommes, malgré les conditions météo, à 3 semaines d'avance sur le calendrier. Sauf qu'on a pris le taureau par les cornes, on a pris un architecte qui nous a fait les plans, et ensuite on a responsabilisé les entreprises. C'est-à-dire que on a aussi un problème d'image. On a fait un suivi, mais on fait un suivi où on responsabilise les corps d'État. Quand la personne plante l'ossature bois, on fait une réunion de chantier avec la personne qui va faire les isolations et qui va poser les fenêtres. Ce qui permet qu'il y ait une coordination et ça met en évidence les capacités techniques de tous les artisans. Et je pense que c'est ce qu'on n'avait pas obligatoirement vu pendant des années. Et on a de plus en plus d'artisans qui se forment et qui ont des capacités techniques qu'ils ne mettaient pas en œuvre. Et là, ça leur permet de les mettre en œuvre. Ensuite, sur la semaine, on s'est épaulé aussi avec l'ordre des architectes parce que pour nous, il va falloir passer par eux. La réglementation thermique qui arrive aujourd'hui, s'il n'y a pas une prise de conscience des architectes et des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage, on va laisser la prochaine construction qu'à des constructeurs individuels. Ce qui va enclencher du travail à bas prix, de la main-d'œuvre qui arrive d'ailleurs, et des problèmes de satisfaction à la fin des chantiers. Donc,
parce que ce qui fait peur aux familles qui construisent aujourd'hui, c'est Les normes, c'est le cahier des charges, c'est le suivi de chantier, c'est tout ça quoi, qui devient très très compliqué quoi.
Bien sûr, c'est très dur, mais bon, on veut montrer à travers cette maison que c'est possible, que demain on va pouvoir monter des groupements d'entreprise, parce que c'est ça aussi le but, de pouvoir amener une offre globale aux gens d'une maison, on va pas dire clé en main, mais
en passant par qui en passant par l'archi ou en passant par le bureau d'études
en fait. On travaille en partenariat avec les architectes, mais les architectes aussi vivent actuellement une époque qui est dure, puisqu'on leur baisse au quotidien les pourcentages sur les chantiers. Donc c'est un métier qui devient dur aussi. Et on pourrait, en mettant de plus en plus de responsabilités sur les chefs d'entreprise au niveau technique, arriver à concilier les deux. Puisque il faut quand même s'imaginer, dans la nouvelle réglementation qui arrive, on se retrouve avec un seuil de responsabilité des chefs d'entreprise qui n'a jamais été aussi haut. C'est-à-dire qu'avant la réception des chantiers, donc avant que votre assurance s'enclenche, on va avoir eu un essai thermique dans la maison, et la personne qui va faire l'essai thermique, le cabinet qui va faire cet essai, va montrer du droit les entreprises coupables de dysfonctionnement du bâtiment.
Responsable, on peut dire. Parce moi, que je coupable, dis ça veut dire qu'il y a une sanction derrière,
c'est ça ? Moi, je dis coupable parce que c'est une sanction, parce que la maison sera finie, prête à peindre, voire totalement fini. Donc ça veut dire qu'il va falloir démonter, reprendre des choses.
Et oui, mais en même temps, enfin là je vous coupe, mais à contrario, imaginons qu'une famille fasse construire une maison avec justement tous ces dysfonctionnements. À la fin, chaque mois, c'est autant de litres de fuel, autant de kilowatts qui disparaissent, et ça, il n'y a personne qui est responsable, sauf que c'est la famille qui paye sur son denier alors qu'elle n'a pas demandé
d'accord.
ça.
Tout donc, à fait d'accord.
Mais donc comment responsabiliser
les entreprises ? Non, je vous arrête là-dessus. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, tous les gens sont couverts sous des assurances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chef d'entreprise, tant que le chantier n'est pas réceptionné et payé, il est totalement responsable en nom propre. Ça veut dire qu'on peut lui saisir sa maison juste sur le fait d'un chantier. Ça veut dire que même s'il est en société, c'est son nom propre qui est pris en charge. Et ça, nous, on ne peut pas l'accepter parce qu'on paye des décennales extraordinaires, des sommes sur des entreprises de 2 salariés ou 3 salariés. Ouais, on a dit 6, 7 000 euros de décennales par an. Et il faut savoir que du moment que le chantier n'est pas réceptionné ou payé en totalité, l'assurance ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on met en cause un seul responsable.
Oui, mais là, ce que vous me dites, en fait, c'est la loi existe, mais derrière, il y a quand même une responsabilité des assurances. Est-ce que c'est pas avec les assurances qu'il faut
travailler ? Mais les assurances, attendez, les assurances, je veux dire, ils vont pas s'engager à ça. Le chantier n'est pas réceptionné pour eux. Par contre, la responsabilité des chefs d'entreprise, on la met entière. Qui c'est qui aujourd'hui peut évoquer, à part un chef d'entreprise du bâtiment, qu'on le met en cause personnellement sur un suivi de chantier qui peut engager la vente de sa maison derrière si ça fonctionne pas? Je veux dire, arrivé un moment, je veux bien que les chefs d'entreprise ont des responsabilités. Et je l'entends, ils en ont avec leurs salariés au quotidien. Mais qu'en plus de ça, on puisse mettre la responsabilité de toute une maison sur une étude thermique d'un cabinet qui sort de je ne sais où, puisque pour le moment, les cabinets, on n'en a pas en Lozère qui sont validés, ou très peu, ça va poser un problème. C'est-à-dire qu'on va monter du doigt d'une entreprise devant 10 corps ou 15 corps d'état en lui disant « Tu as fait du mauvais travail, donc il va falloir que tu le modifies. Tu vas le modifier à tes propres frais parce que ton assurance ne fonctionne pas.
Mais » Mais comment on résout le problème si le travail, est, comme vous le dites, est mal fait ?
On attend, on réceptionne le chantier, on met sur la réception un défaut de conception thermique et tout ça, et on peut enclencher des assurances derrière. Une réception, c'est pas obligatoirement un aval de tout, c'est une réception. Donc on peut très bien dire qu'on a un problème thermique sur la réception et qu'il va falloir résoudre tel et tel point, ce qui veut dire qu'on pourra enclencher une assurance. Si on n'a pas ça, on n'enclenche pas d'assurance. Et c'est le chef d'entreprise, avec ses deniers personnels, qui va payer le travail.
Ça, c'est au pire, mais imaginons que, comme vous l'avez dit, pour que les familles ne partent pas comme ça sur des projets qui soient catastrophiques, est-ce que justement le conseil et le passage avec un architecte ou avec un
bureau d'études,
ou un bureau d'études ou des thermiciens ou des gens comme ça, est-ce que ça permet pas justement de limiter un peu?
Bien sûr que ça permet de limiter, sauf que vous n'êtes pas...
On n'est pas à l'abri de...
On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, et puis on est surtout en pleine récession économique. Et alors il va falloir qu'on m'explique comment on fait, parce que aujourd'hui vous voulez déposer un permis de construire. Avant de déposer le permis de construire, vous allez faire des plans à un architecte. Quand il va avoir fini ses plans, l'architecte va le faire partir à un bureau d'études, qui va valider ou pas valider ses plans, faire le calcul thermique. Donc déjà, vous avez des sommes d'argent indiquées. Quand vous allez avoir l'aval du bureau thermique, vous aurez sûrement des modifications du plan, donc encore des frais qui rentrent en jeu. Et puis derrière ça, vous allez faire venir une entreprise qui va faire une étude géologique du sol pour être sûr que vous puissiez faire la maison là-dessus. Donc vous avez juste à souhaiter que l'étude du sol soit faisable, sinon il faut rechanger les plans, et vous n'avez toujours pas déposé le permis de construire. Donc on engage des frais avant le dépôt de permis qui sont énormes. Et c'est vrai que cette normalisation RT 2012 est bien, c'est une avancée, mais on se demande si on ne saute pas d'une extrême à l'autre.
Oui, et c'est peut-être un degré...
C'est un degré trop élevé en période de disette économique.
C'est-à-dire qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, mais bon, c'est un peu partout comme ça. Hein.
Oui, sauf que le bâtiment en France, quand on commence à baisser l'activité du bâtiment, on baisse une grosse activité. Et dans le département, si on commence à freiner le bâtiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va tenir. Donc, on en parle, on est en discussion, on a une table ronde lundi matin à la préfecture parce qu'on a levé quelques points qui nous paraissent illogiques sur cette réglementation. Donc, la préfecture est ouverte à la discussion et à l'avancée, donc on travaille sur ces points-là aussi.
Donc si on résume, en gros, bon, une ERT qui est complexe et qui va mettre en œuvre des surcoûts à la fois pour les familles et les professionnels, une prise de risque importante pour les professionnels qui n'est pas forcément justifiée. En tout cas, on aurait pu créer une mesure qui permettait de déplacer
le taux de responsabilité.
Le taux de responsabilité juste après la réception des travaux.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, surtout, du coup, ça entraîne un grand professionnalisme et des compétences avérées sur les professionnels qui vont intervenir. Parce que, du coup, ça doit limiter leur taux d'erreur. Quoi.
Ah bah,
en tout cas, la RT, elle était faite quand même pour ça aussi.
Il y a une pression énorme sur les travailleurs. Là.
En fait, il y a une pression. Si vous voulez, sur les anciennes réglementations, on pouvait admettre sur un essai thermique une déperdition de l'équivalent de la moitié d'une porte de communication. On va le dire comme ça. Aujourd'hui, dans la nouvelle réglementation, on va admettre grossièrement l'équivalent de deux verres d'eau, du diamètre de deux verres d'eau. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes choses. Et effectivement, ça va entraîner des contraintes techniques énormes. Et puis, ça va entraîner aussi une responsabilité du corps d'État qui intervient après l'autre. C'est-à-dire que quand le plaquiste va venir poser les cloisons, il va falloir qu'il soit sûr que la paroi qu'il a mis avant, le pare-vapeur, ne soit pas déchiré, qu'il n'y ait pas des fils électriques qui soient passés au mauvais endroit. Donc ça va mettre en responsabilité, en capacité technique, bien plus de choses que jusqu'aujourd'hui. Il va falloir prendre la notion du corps d'État qui a travaillé avant vous. Il ne faudra pas travailler tout seul dans un carton, c'est sûr.
Oui, mais ça, c'était nécessaire même avant, quoi. Parce que franchement, on a tous plein de cas de maisons qui ont été mal montées, quoi.
Bien sûr,
mais enfin, pendant 10 ans sur des.
Oui,
sur des
mais maisons. On a aussi beaucoup de cas de maisons qui ont été mal montées par des pavillonneurs à des prix bradés.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
Et qu'on n'évoque pas. Donc, nous, on est là pour défendre les artisans du pays. Là.
Oui, mais la RT, elle s'adresse aussi aux pavillonneurs.
Ah oui, mais la RT, elle s'adresse aux pavillonneurs, mais elle a une ouverture vers eux qui est un peu énorme. C'est qu'à partir de janvier 2014, les pavillonneurs vont pouvoir valider une maison et l'utiliser, la dupliquer tant qu'ils veulent, sans refaire des études thermiques par rapport à un volume de maison. Et si les artisans...
Donc c'est des maisons clés en main.
Voilà, on repart sur du phénix ou des choses comme ça. Sauf que l'artisan du pays, il ne travaille pas avec ces gens-là. Donc si on ne veut pas laisser partir un marché ailleurs et perdre la totalité par nos entreprises, il faut qu'elles se fusionnent, il faut qu'elles travaillent entre elles, et il faut qu'elles aient une notion technique bien élevée. Donc il va falloir qu'on se forme, effectivement.
Alors ce label Sud de France que vous voulez mettre sur cette maison, en fait, est-ce que ce n'est pas la même chose ?
Ce label Sud de France, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que nous, on parle dans la notion de créer de l'emploi localement. La RT 2012, c'est une chose, mais la survie du pays, ça en est une autre. Si aujourd'hui, on peut montrer à la région entière qu'on peut faire des maisons Sud de France, ça veut dire qu'on va pouvoir vendre du bois de Lozère à Montpellier et faire des ossatures bois en bois de Lozère. Parce qu'il faut savoir que, mettons, aujourd'hui, 95% des maisons qui sont faites en bois en région sont faites avec des bois qui arrivent du Nord. Des pays du Nord, de Finlande, de Norvège, quand ce n'est pas de Russie ou de Lituanie ou de Lettonie. Donc, on a des bois en Lozère qui peuvent faire l'ossature bois. Donc, ça peut être un marché qui développe notre filière.
Alors, qu'est-ce qui freine ça ? C'est ce manque de label ou...
C'est un manque de vision. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans des départements comme les nôtres, il y a beaucoup de Saint-Thomas et que les gens, quand ils n'ont pas vu, ne croient pas. Et aujourd'hui, cette maison, on est heureux de voir le président de la région qui vient visiter parce qu'il va voir ce que sont capables de faire c'est nos artisans avec nos produits. Ouais. Les briques arrivent de Castelnaudary, donc on est dans la région. Tous les bois sont d'ici. On a des losses de la chance sur le toit. Donc on est vraiment dans une logique de pays. Et si demain on arrive à valider cette maison Sud de France, ça va ouvrir des marchés à des entreprises, des petites entreprises lausériennes pour développer. Moi, je suis beaucoup sur la ressource bois parce que je pense qu'il ne faut pas utiliser la Lozère comme un grenier à plaquettes, mais comme un grenier à future maison et à construction. Et ça, ça va créer de l'emploi. Plus que des auto-entrepreneurs.
Justement, puisqu'on parle des auto-entrepreneurs, peut-être nous dire quelques mots, parce qu'il y a eu quelques changements.
Ben écoutez, c'est un combat que je mène depuis des années, pas contre les auto-entrepreneurs qui sont là, parce que pour moi, c'est un statut qui amène à la précarité. C'est une évolution qu'on avait demandé à tous les ministres et les gouvernements précédents. C'est une évolution de ce statut limitée dans le temps. Parce que nous, on a envie de créer des emplois, on a envie que des gens s'installent. Mais on ne peut pas laisser des gens s'installer en totale concurrence déloyale avec des artisans, on va dire, normaux. Donc il va y avoir eu un aménagement de ce statut avec une limitation dans le temps qui va permettre de permettre à ces gens un tremplin et de s'installer dans l'artisanat après. Et ça, c'est une bonne chose. Au lieu d'une concurrence déloyale avec des tarifs effrayants, comme on peut voir des auto-entrepreneurs dans le département, où c'est vraiment amener les gens à la précarité. Savoir qu'un auto-entrepreneur, s'il s'arrête demain, eh bien, n'a droit à rien. Il n'y a pas d'indemnité chômage comme un chef d'entreprise. Donc c'est de la précarité pure ou de l'exploitation de grosses entreprises, parce qu'on le voit aussi de cette main-d'œuvre-là. Donc nous, on est contents qu'on nous ait pris en compte parce que c'était vraiment une revendication de notre part. Et ça va peut-être permettre de relancer la création d'entreprises dans le département parce que c'est très, très important pour nous. On est un département où on a... je crois un artisan sur deux qui a plus de 50 ans. Donc s'il n'y a pas une régénération, il va y avoir un problème en quelque part.
Oui, bah ça on l'a déjà vécu. Hein. C'est vrai que sur certains cantons, il y a des corps de métier qui ont disparu. C'est super dommageable. Quoi.
Ouais. Oui. Donc il n'y a pas un canton de Lozère où il n'y a pas d'artisan. Hein. Il faut être clair. Mais il faut se rendre compte au niveau des pouvoirs publics et de tout le monde que c'est la première force du département et qu'il faut soutenir cet artisanat-là. Et autour de cette maison, je peux que remercier tous les acteurs locaux, que ce soit la mairie de Mende, la Comcom, le département, la région, l'État, les fonds européens, qui sont vraiment derrière nous et qui ont poussé. Il y a eu un travail de Sophie Pantel sur le dossier qui a été énorme. Elle a vraiment cru en notre projet et c'est bien qu'on puisse avoir des élus qui aient la notion de nos entreprises.
Mais je crois que c'est assez partagé, en tout cas aujourd'hui. Je crois que beaucoup d'élus ont envie qu'il y ait des entreprises, d'abord parce que ça veut dire aussi de la population, ça veut dire de l'emploi, ça veut dire aussi une dynamique pour les collectivités locales. Donc les élus qui sont contre sont très...
Je ne dis pas contre, mais...
Ils n'ont pas toujours le même engagement. Ça,
voilà, mais je pense que personne ne peut être contre la création d'emplois ou d'entreprises. Après, il faut juste se dire que quand on en a marché une entreprise locale, eh bien... On va dynamiser sa commune, on va permettre à l'école de rester là, au service public d'avancer, et c'est ça le but. Donc s'il y a une prise de conscience de tout le monde, j'en suis ravi, parce que c'est quelque chose qu'on mène depuis des années. Donc nous, c'est un aboutissement et de montrer cette maison au grand public, mais c'est qu'un passage dans l'avenir.
C'est bien.
Merci.
Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Le sujet est quand même assez délicat parce que on parle emploi, on parle aussi loi, on parle directive, normalisation. Ça donne des contraintes à des entreprises, ça garantit pour le consommateur aussi des constructions de qualité. Donc il faut aller dans les deux sens. En même temps, c'est vrai qu'on est sur une période économique difficile et compliquée. Il faut de la souplesse. Bon, mais je pense qu'avec de l'écoute et surtout du dialogue social, on peut arriver à trouver des compromis intéressants.
Oui, en plus de ça, on revient totalement sur des fondamentaux. Cette maison-là, c'est des fondamentaux de construction de nos artisans en Lozère. Il y a toujours eu des artisans en Lozère. On a du bâti qui a plus de 200, 300, 400 ans en Lozère. Et en fait, cette maison, en faisant une maison sud de France ou régionale, ça veut dire qu'on revient sur des fondamentaux de construction. Les anciens n'allaient pas chercher des bois dans le nord. Ils n'allaient pas chercher des briques dans le nord.
Ils construisaient avec ce qu'ils avaient sur un rayon.
Voilà. En Lozère, on sait très bien qu'à une époque, quand on n'a pas eu de tuiles, on a été chercher des tuiles à Marseille. Donc, ça veut dire que nous, on revient sur des fondamentaux totaux de construction. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir recréer de l'emploi local sur nos matériaux.
Non délocalisables.
Non délocalisables. 80% de produits régionaux, 100% d'artisans locaux à la maison.
Voilà. Bon, ben, j'espère que ceux qui vont construire demain, en tout cas, feront les bons choix, en tout cas qu'ils puissent aller voir cette maison, hein, participer à ces journées qui sont offertes par la CAPEB, parce que c'est vraiment très, 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 très intéressant.
La maison sera toujours ouverte, ça va devenir le nouveau siège de la CAPEB, donc ça va être évolutif. Et on accueille vraiment tous les Lozériens et les gens qui veulent s'installer ici avec grand, grand plaisir dans cette maison.
Alors, monsieur Jean-Claude Moulin, élu sur la ville de Mende, vous avez ouvert récemment la bergerie à un nouveau lotissement. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire un peu de pub ?
Ah oui, on peut toujours. Hein.
Voilà, parce qu'il va y avoir quand même là pas mal de maisons à construire. Je crois que c'est plus de 70. Ce serait vraiment intéressant que les gens qui sont en projet de construction montent vous voir. Pour au moins avoir des conseils et puis savoir quels vont être.
On l'a déjà vu hier, on a des jeunes couples, des gens qui appellent déjà pour faire des visites de la maison, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai que ça va être la vitrine de notre artisanat et c'est la vitrine du département et de la région, on l'espère demain.
Belle initiative, bravo à la CAPEB. En tout cas, 48FM vous soutient dans ces initiatives. On a besoin de gens comme vous, qui sont des créateurs et des initiateurs d'intelligence. Merci.
Merci à vous.
Coupure musicale.
FM Le Mag. 48 FM Le Mag.
Et voilà la dernière partie de cette émission qui a été très intéressante hein, sur les deux premiers invités.
Oui, très.
Hein passionnant, voilà. En tout cas, on a très envie d'aller voir cette fameuse construction, cette inauguration, puis cette nouvelle maison de la CAPEB. Je pense que ça va être un vrai tremplin, en tout cas, pour les Auxerrois. Et sans transition, nous passons donc directement à la fête du sport.
Ah,
là aussi, une très belle entreprise, pilotée d'une main de maître par M. Jean-Claude Moulin, donc adjoint au sport, à la ville de Mende et à la communauté de communes, puisque c'est une délégation aussi communautaire. Alors, parlez-nous, monsieur Jean-Claude Moulin, d'abord les dates de cette fameuse fête du sport.
Alors, la fête du sport, c'est samedi prochain. Donc, ça se fait tous les deux ans.
Donc, le 15 juin, oui.
Le 15 juin, c'est ouvert au public, enfin, aux jeunes sportifs, à partir de 10h du matin. Il y a une petite pause entre midi et demi et 1h30. Et puis, ça reprend l'après-midi, plein feu, là, donc jusqu'à 17h, 17h30.
Alors, l'objectif de cette fête du sport, en fait, pourquoi vous avez créé ça il y a 5 ans et en quoi ça consiste mais surtout, pourquoi ça existe?
La fête du sport a été créée il y a plus de 5 ans, hein, puisque c'est tous les deux ans, donc ça fait une dizaine d'années, la première. En fait, c'est pour mettre en valeur un petit peu l'aspect sportif de la ville de Mende, hein, qui est vraiment réputée pour ses sports.
Puisqu'elle a déjà été...
Elle a été deux fois première ville de France, plus sportive de France. Et une troisième fois, elle a échappé en terminant deuxième. Non, il y a énormément d'activités sportives sur la ville.
Beaucoup de clubs aussi.
Il y en a énormément. Pratiquement tous les sports sont représentés. Sauf les sports de glace, parce que...
Et le ski un peu moins aussi.
Il y a un ski club, hein, mais il a d'activité, oui, il passe pas trop sur le département. Voilà. Ils sont obligés d'aller faire leurs compétitions dans les Alpes ou dans les Pyrénées, puisqu'on a de moins en moins de neige, malheureusement. Mais donc ça permet aussi également donc, aux animateurs sportifs, aux bénévoles des associations, de se rencontrer, de passer une journée ludique, en souhaitant surtout qu'ils fassent un beau temps, parce que le succès de la fête du sport, c'est 80%
du soleil. Ils ont annoncé du beau temps. Ouais.
Oui, c'est pour ça qu'on l'a fête ce samedi.
Vous avez bien fait.
C'était programmé.
Vous avez choisi une bonne semaine. Alors, un gros plateau, il y a combien d'associations qui participent cette année?
Il y a 40 associations sportives sur les 46 ou 47 qu'il y a sur la communauté de communes, parce que c'est la communauté de communes qui est maître d'œuvre. Donc, ce sont mes collègues de l'OTI qui sont les chevilles ouvrières de cette fête du sport. Et
donc on pense à Franck.
Et notamment Franck Solaire, oui, bien entendu.
Voilà, Franck Solaire qui manage et qui fait un gros boulot.
Qui fait un boulot énorme depuis quelques semaines déjà. Et avec lui, tout est au poil, tout est impeccable, tout est prévu, tout est bien agencé.
Alors qu'est-ce qu'on aura au menu?
Alors on aura en plus...
À partir de 10h, tu as dit.
À partir de 10h, donc les associations viennent avant, mettent en place leurs ateliers. Et à 10h, donc les premiers jeunes arrivent. Il y a des activités ludiques que nous mettons nous-mêmes en place, qui sont donc des jeux gonflables pour les tout-petits. Ça, c'est habituel, hein, bien entendu. Ça permet aux parents d'aller balader un peu dans les stands pendant ce temps.
Donc là, c'est gardé.
Pour la compagnie, c'est parents, les enfants, Jean-Claude, tu exagères.
Il y a les deux.
Il y a des animatrices et des animateurs qui peuvent aussi...
Et puis alors, à côté de ça, il y a donc des animations pour les ados. Ou pour les jeunes un peu plus... Donc il y a la piste de vélo BMX qui est pour chaque fête du sport que nous prenons tout le temps, puisque ça connaît un grand succès. Il y a des jeux de laser green qui sont aussi...
Un espace BMX,
à côté du chalet du chapitre. Et puis il y a cette année une tyrolienne partira du plus haut des tribunes du chapitre et qui atterrira.
Ah, je croyais que ça partait de la cathédrale, c'est pour ça qu'ils avaient
chiffre. On a tenté, mais ça faisait un peu long.
De la croix jusqu'au chapitre,
de la
c'est bon. Hein.
Ouais, ça sera pour la prochaine, ça. Ça, c'est un essai, donc, cette tyrolienne.
D'accord.
Et ça devrait avoir un bon succès aussi. Hein. Ça arrive sur le
stade
d'honneur.
Oui, parce qu'une année, vous aviez mis donc un saut en élastique avec... Ouais.
On avait mis un saut à l'élastique qui avait eu pas mal de succès aussi.
C'était d'une grue.
Il fallait sauter d'une grue, oui. La dernière fois, on avait un mur d'escalade aussi. Donc, on a changé un petit peu les animations.
Une tyrolienne.
Alors, l'essentiel de ces animations se font donc sur les installations du chapitre. avec deux pôles décentralisés, un pôle d'escalade qui se fera donc au gymnase de la Vernède sur le mur d'escalade.
D'accord.
Et un pôle à la base de canoë-kayak, donc avec des animations autour de la base de canoë-kayak.
Ouais, ils ne descendent pas jusqu'au chapitre.
Et ils peuvent essayer. Pourquoi pas. Ils peuvent aller jusqu'à la piscine, puisque la piscine aussi sera ouverte exceptionnellement, gratuitement toute la journée.
D'accord.
Et il y aura aussi des animations.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire à la piscine?
On peut faire un bébé nageur, on peut faire des jeux. Et en même temps, on fera tamponner. Voilà, il y a le système des tampons pour les jeunes qui recevront donc une carte lorsqu'ils arrivent. Ils doivent faire un maximum de 5 ou 6 ateliers pour avoir, après, en fin d'après-midi, un lot. Plus ils auront fait d'ateliers, plus ils auront de lots importants.
C'est de la consommation, Jean-Claude, là, non?
Ouais, non, c'est de l'amusement, parce que c'est des petits lots, hein, c'est des t-shirts, c'est...
C'est de l'incitation.
C'est de l'incitation.
L'incitation à la découverte et à la pratique sportive.
C'est voilà, l'essentiel, c'est que les gens fassent des sports qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc avec la gamme de 40 sports, bon...
Alors qu'est-ce qu'on a comme sport un peu atypique qu'on ne connaît pas et qui...
Oh, ben, y a la pêche à la mouche, tiens, au milieu de
l'espace,
on peut pêcher la truite, voilà. On peut faire du tennis, on peut faire du badminton, du foot, de la gym, de la danse, de l'athlétisme, de la natation, du tennis de table, on peut faire tout, quoi. En fait, hein, du rugby, tout ça, ça sera donc à proposer. Et donc, il y a un flyer qui sera donné à l'entrée avec les espaces numérotés. Donc, les gens peuvent aller directement sur le site qui les intéresse en priorité.
D'accord. Donc, ce petit programme que tu as devant les yeux, on peut se procurer déjà ou pas?
Oui, bien entendu. Ce programme est déjà distribué dans les associations et on peut s'en procurer à la mairie et à l'OTI.
À l'OTI,
à l'Office de tourisme.
À l'Office du tourisme, voilà. Intercommunal.
Et à l'Office de commerce, il y en a un petit peu ou pas du tout?
Je ne crois pas qu'il y en ait à l'Office de commerce, non. On va peut-être en mettre, oui.
Oui,
c'est peut-être une idée, ouais. D'ailleurs. Ce serait pas mal, c'est un centre-ville.
Bien.
D'accord. Donc, pour les associations, si on résume, elles viennent s'installer de 8h à 10h.
Oui.
C'est ça?
Oui.
C'est ouvert au public à 10h.
À 10h.
Jusqu'à 17h.
Oui.
18h.
Jusqu'à 17h. Oui, entre.
Ça dépend des ateliers.
Voilà,
d'accord. Remise des prix en fin de journée.
Remise des prix en fin de journée, vers 18h.
Voilà, un petit
on
discours.
On remettra donc un petit discours à quelques élus qui seront par là. Et donc, on distribuera surtout aux jeunes les lots qu'ils auront gagnés. Il y a 700 ou 800 lots. Il faut savoir que la dernière fête du sport, on avait rassemblé un peu plus de 2000 jeunes qui sont venus.
D'accord, ouais, ce qui est
pas mal.
On parle de jeunes, mais à partir de quel âge on peut imaginer de tester les sports? 9 mois, un an?
9 mois, c'est les...
C'est de l'occupationnel. Ouais.
Voilà, c'est de l'occupationnel. Non, moi je dirais... 5-6 ans, hein, puisqu'il y a des gonflables aussi pour eux. Il y a des petits jeux ludiques au niveau des podiums, de la danse et tout ça. Pour les tout-petits, hein, vraiment pour les tout-petits. Il y a de la gymnastique pour tout-petits.
Et alors jusqu'à
country,
quel âge
pour les petits aussi.
Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 77 ans.
Ah, donc on est jeune jusqu'à 77 ans. On est bien d'accord.
Oui, tout à fait.
Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de danse, en fait. Il y a
beaucoup de clubs de danse. De clubs de danse et de gym.
La Zumba, jazz enfant, country, Zumba encore, salsa, rock et bachata. Ça ne se boit pas, ça se boit pas, le bachata? Moi, je crois que c'était une boisson.
Non, ça ne se boit pas, non.
Pourquoi pas? Il faudrait l'inventer. Roller, ok. Ça, voilà. C'est bien aussi.
Un peu tous les sports qui sont pratiqués sur la ville et sur la communauté de communes. Il y en a une quantité quand même conséquente.
On a le foot aussi, je pense, non?
Bien sûr, il y a le foot, il y a le volley, le hand, tous les sports traditionnels. Et il y a du handisport. Ah, il y a le handisport qui viendra faire donc des jeux, des matchs de tennis et aussi, je crois, des matchs de basket en chariot.
D'accord. Et on va parler de sport partagé aussi?
Oui, bien sûr. Oui.
Alors par contre, pour s'y rendre, on fait comment? Parce que les voitures, pour s'y rendre,
on peut y aller à
vélo.
On peut y aller à pied, à cheval, en vélo, en roller, en patinette, en canoë-kayak.
Faut le ramener après le canoë.
En bus, non?
Et bien entendu, en bus. Alors il y a les tumes qui sont gratuites toute la journée.
Ça, c'est bien à rappeler.
Alors, il y a des navettes toutes les demi-heures qui partent du foirail et qui amènent directement là-bas au chapitre.
Voilà, alors laissez la voiture à la maison.
Bien entendu, bien sûr.
Ou bien au foirail, allez-y en...
Allez-y, voilà, par les moyens sportifs. il y a aussi le petit train de la communauté de communes qui va fonctionner et qui amène gratuitement lui aussi.
Pour les tout petits,
voilà, pour les tout petits, c'est intéressant, pour les familles.
C'est celui que je double à
vélo. Oui, oui, celui-là. Donc, qui amène directement sur le site. Alors, par contre, s'ils ne peuvent pas faire autrement que de venir en voiture, on a ouvert, bien entendu, les parkings de l'espace du TUF. Et on conseille aux gens d'aller se garer plutôt de ce côté-là.
Oui, côté.
Parce que là, il y a de la place, et puis TUF, avec la passerelle, voilà. on est de suite sur l'espace.
C'est beaucoup plus simple.
Il y a de jeunes personnes. Mm-hmm.
Je vois qu'il y a aussi les tests de sélection pour le col. Alors, le centre d'e-sport Lozère.
Bien sûr. Le col a souhaité faire ses tests de sélection donc, dans le cadre de cette journée. Et donc, ils feront leurs tests sur du foot, de l'athlétisme, du tennis de table. Et je crois qu'il y a un quatrième atelier donc, pendant la journée. Oui, oui.
D'accord, très bien. Oui, il y a le foot.
Pour entrer au col.
Oui, c'est ça. Ouais. À partir de 10h, test de sélection du col.
Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr.
Donc, ça fait voilà, une grosse journée. Tout ça, c'est financé par la ville de Mende.
Non, c'est financé par la communauté de communes.
D'accord, très bien.
Avec une petite aide de la ville de Mende.
Est-ce qu'il y aura un espace pique-nique pour le midi, pour les gens qui veulent rester?
Bien sûr, bien sûr.
Vous avez prévu tout ça?
On a prévu tout ça. Puis il y a le comité des fêtes qui tiendra la buvette, comme chaque fois. Donc ça permet d'avoir des boissons sur place.
Des sandwichs aussi, de quoi grignoter pour les gens ou pas?
De quoi grignoter, oui. On a des partenaires aussi qui ne sont pas très loin, quoi. Je ne peux pas les citer, si. Un McDo pas. Qui est. voilà, j'en étais suscité pour voir la réaction.
Et oui, oui, ben oui.
Mais en fait, on a aussi le stand de petits bonbons et compagnie qui sera sur place, là aussi,
d'accord.
Habituel.
Ah, ils pourront se nourrir
pour
de bonbons,
enfants,
les gens,
c'est
pour
très
la fête
bon,
du sport. Bon, et après, ils se dépensent, ça se voit bien.
Rapide,
hein. Bien sûr.
Il faut des, voilà,
c'est le seul jour où on a le droit.
C'est le seul jour.
Voilà.
À condition de se dépenser après derrière comme il faut.
C'est ça.
Ben, en tout cas, merci. Merci Jean-Claude. Merci encore à toute l'équipe qui anime tout ça. Je pense à Franck Sauer, à l'équipe de l'OTI, et puis à tous les bénévoles qui vont vous aider.
Les bénévoles qui seront le matin
pour le montage, les installations, l'animation, la sécurité, parce que ça fait beaucoup de monde.
Bien entendu, bien sûr, bien sûr.
Ben bravo. Alors rendez-vous samedi 15 juin à partir de 10h au chapitre, voilà, en utilisant les moyens de locomotion les plus sportifs possibles sur cette journée-là, voilà, pour
courant.
Ceux qui peuvent. Puis pour ceux qui ne peuvent pas, en prenant le TUM gratuit, hein, au départ de Place du Forêt, toutes les demi-heures. Voilà.
C'est ça.
Merci beaucoup. Bravo à la communauté de communes et puis à bientôt. C'est la fin de cette émission, Nathalie.
Oui. Oui.
Retransmise jeudi, c'est ça?
Oui, jeudi soir, 18h10. 11, ouais,
voilà,
11, c'est mieux.
À peu près, ouais. Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Peut-être le 21 juin, une fête de la musique un peu spéciale pour 48 FM, puisque toute la journée, nous sommes une radio quand même musicale, hein, pop-rock. Et donc, nous allons avoir des rendez-vous toute la journée avec des moments très savoureux, des moments un peu plus de détente. Un plateau à partir de 18h avec une conférence de presse, avec des artistes invités, en direct de la place Chaptal, et oui, nous on
dans
fait
la
beaucoup
rue,
de direct
dans la
dans
rue.
La rue, voilà, pour animer tout ça jusqu'à point d'heure, et puis après, un battle musical entre tous les animateurs de cette radio qui anime tous les soirs des moments musicaux particuliers, et donc on va essayer de se faire un petit battle pour essayer de s'échanger des styles musicaux, des découvertes musicales, voilà,
non,
donc ça ce sera pour le 21 juin. Voilà, donc bonne journée à vous. Retrouvez toutes nos émissions. N'hésitez pas, écoutez-vous, écoutez-nous, écoutez l'essentiel.